spirituel qui est unique. Alors c'est ça où je veux, en dernier lieu, nous y reviendrons, en dernier lieu, saisir que dans la vie spirituelle, il y a l'émergence de l'âme spirituelle. La vie spirituelle est au-delà du corps et des organes biologiques. La vie spirituelle saisit quelque chose qui est au-delà du monde physique, puisque je suis capable de saisir l'universel. Je suis capable de définir, je suis capable de saisir ce que c'est que la signification. Je suis capable d'aimer spirituellement. Il y a donc dans la vie spirituelle quelque chose qui est au-delà du corps. Et c'est là où je peux saisir ce qu'est l'esprit. Cette vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit. Et je préciserai donc en disant que cette vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit. Et quand je dis esprit, je veux dire quelque chose qui est au-delà du monde physique, quelque chose qui est immatériel. Et immatériel, quelque chose qui est au-delà du monde physique. Mais cet esprit, cette vie de l'esprit, n'est pas séparé de la vie sensible et n'est pas séparé du biologique. De sorte que si j'ai trop mal à l'estomac, j'aurai beaucoup de peine de faire de la philosophie. Si j'ai trop mal à la tête, comme on dit, j'ai mal à la tête, j'ai mal au crâne. C'est biologique, ça. J'ai mal au crâne, chose qui va très bien. Alors, j'ai beaucoup de peine à penser à ce moment-là. Vous voyez, l'handicap. Quand j'ai trop bien mangé, trop bien bu, j'ai beaucoup de peine à faire de la philosophie. À ce moment-là, vous allez devenir génial au point de vue philosophique. Non, vous n'avez plus qu'un seul envie, c'est de dormir. Vous voyez, c'est le végétatif qui l'emporte. Et le végétatif est tellement fort qu'il fait que, après avoir bien bu et bien mangé, il n'y a pas qu'un seul désir, c'est de dormir. Alors, à ce moment-là, on sent très bien que le végétatif va complètement inhiber le reste. Quand je suis trop passionné, je n'ai plus d'objectivité, comme on dit. Comment voulez-vous que vous ayez l'objectivité, vous êtes beaucoup trop passionné? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la passion étouffe la vie de l'esprit. L'objectivité, c'est l'intelligence. L'intelligence seule est objective. L'intelligence seule est capable d'atteindre l'universel, de saisir un principe et saisir une cause. L'intelligence seule est capable de faire ça. Et l'intelligence et la volonté est seule capable de dépasser tout le domaine physique. Mais dans l'exercice de ma vie de l'esprit, je suis toujours dépendant du monde biologique et du monde sensible. Ce qui explique comment on peut, en touchant certaines parties, certains organes du corps, empêcher l'exercice du jugement et de la liberté. C'est très important aussi de comprendre ça. Je ne suis pas séparé de mon corps. Je ne suis pas séparé du domaine sensible. L'exercice de ma vie intellectuelle, l'exercice de ma vie profonde du cœur et de la volonté dépend du monde sensible, de mes sensations, de mon imagination et de ma vie végétative. Dans l'ordre de l'exercice, pas dans l'ordre de la détermination. Ça nous y reviendra, cette petite distinction qui est capitale. Je m'arrête. Alors, j'en ai prévenu. Donc, la vie, on ne peut pas la définir, mais on peut définir des fonctions vitales. On peut essayer de définir le conditionnement de la vie. Mais on ne peut pas définir ce qu'est la vie. Vous voyez, c'est ça qu'il faut essayer de bien comprendre. Et ça reste toujours pour nous, dans un certain langage philosophique, on dirait un mystère. La vie reste un mystère. Je peux très bien, comme Mono, dire la vie, c'est telle ou telle réaction chimique et telle ou telle produit. Mais ce n'est pas du tout la vie, ça. C'est tout simplement les conditions pour que la vie apparaisse. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Je peux préciser, il faut telle ou telle condition pour que la vie apparaisse. Ça, c'est très vrai. Ça, je peux le préciser. Et je précise alors au niveau chimique, au niveau biologique. Mais je ne peux pas dire ce qu'est la vie. La vie comme telle est au-delà de ce que je peux, moi, saisir. Je saisis les conditions, je mesure les conditions, je vois les réactions qu'il peut y avoir d'un point de vue vital, au point de vue des fonctions vitales, mais je ne peux pas saisir ce que c'est que la vie. Donc la vie demeure, au point de vue philosophique, un mystère. Quand je dis un mystère, comprenez bien, ce n'est pas du tout un mystère au sens surnaturel. J'essaie de comprendre de plus en plus. C'est pour ça que quand je parle de l'âme, vous comprenez bien, cette source du vivant, j'ai une connaissance de l'âme qui est très, très difficile à préciser. Parce que c'est la connaissance d'un principe. Et la connaissance d'un principe, c'est toujours une connaissance qui se fait par l'intermédiaire d'autre chose, et je le saisis à travers les opérations, je saisis à travers les diverses opérations du vivant qu'il doit y avoir une source. Mais je n'ai pas une... J'ai une certaine évidence d'un principe, c'est sûr, un principe c'est quelque chose que je saisis avec évidence. J'ai l'évidence de ce que c'est que l'âme, mais je ne connais pas parfaitement ce que c'est que l'âme. Et comme c'est un principe, je ne peux pas le définir. Mais c'est là la grande erreur de la scolastique décadente, c'est qu'elle voulait tout définir. Elle en donnait les définitions. Or, de fait, dès que je suis dans un domaine philosophique, je suis au-delà du procédé de la définition. Je définis les catégories, c'est-à-dire les déterminations essentielles d'une réalité. Mais le principe propre de la réalité, le principe propre du vivant, ne peut pas être défini. Vous voyez, j'arrive à peu près à définir ce que c'est telle ou telle forme. Je définis, par exemple, ce que c'est que la qualité. C'est bien difficile de définir ce que c'est que la qualité. Je donne des descriptions, je m'approche pour définir ce que c'est que la qualité. J'essaie de définir ce que c'est que la quantité. J'essaie de définir ce que c'est que la relation. Mais en réalité, toutes ces catégories, elles échappent. Elles sont premières, c'est à partir d'elles que je définis. Très peu de choses qu'on définit. Très très peu de choses qu'on définit vraiment. Alors on s'approche, voyez, et la vie étant quelque chose de radical et de premier, je dis l'âme est source de vie pour le vivant, mais je ne peux pas préciser et définir ce que c'est que la vie. J'essaie de me mettre le plus proche possible de ce que représente le point de vue de la vie. Ça, je crois que c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on ne le connaît pas. Au fond, vous définissez très peu de choses. Il n'y a qu'une seule définition qu'on arrive à préciser d'une façon absolue, une seule, au point de vue logique. C'est l'ordre. C'est la seule définition rigoureuse que vous avez. Quand vous dites animal raisonnable, c'est bête comme chou, c'est la définition logique de l'homme. C'est la seule définition que vous avez rigoureusement. Vous ne pouvez pas définir ce que c'est qu'un chien. Vous n'arrivez pas. Parce que vous ne saisissez pas la différence spécifique du chien. Vous disiez qu'il est un animal. Ça oui, animal. Le chat aussi, c'est un animal. Mais quelle différence est-il entre le chien et le chat? Vous n'arrivez pas. Il faudrait être dans le chien pour définir vraiment ce que c'est que le chien. Parce que vous le regardez de l'extérieur. Le chat, vous le regardez de l'extérieur. Alors, vous ne pouvez pas définir au sens propre. Vous définissez ce que c'est que l'homme parce que vous avez une connaissance intime de l'homme. Et vous avez une connaissance propre de l'homme. Et donc, au fond, la seule réalité que vous pouvez vraiment définir, c'est l'homme. Ça suffit pour dire qu'il y a une définition. Même s'il n'y en a qu'une. Oui, c'est ça qui est très très connu. Et la logique classique repose là-dessus. Il y a une définition qui est la définition de l'homme. Alors je veux, à partir de cette définition logique, hein, faisons attention, c'est une définition logique, mais la définition est d'ordre logique. Hein. La définition, c'est une connaissance logique, c'est pas une connaissance métaphysique. En métaphysique, il n'y a pas de définition. En philosophie, il n'y a pas de définition, il n'y a qu'en logique. La logique seule définit. Elle définit parce que dès que je suis au niveau philosophique, je suis au niveau des principes et des causes. Or, le propre du principe et de la cause, c'est d'être au-delà de la définition. Donc, je ne peux pas la définir. C'est ça, ça me fait tomber des pendules, j'ai l'impression. Et c'est important, justement, de comprendre que la définition dont on parle tout le temps, définition. Regardez dans Larousse ces définitions, c'est très amusant à voir. Regardez les définitions de Larousse, amusez-vous une fois, regardez ça, ou le petit Robert. Regardez les définitions, vous verrez qu'il n'y a aucune définition. Qu'est-ce que c'est que la blancheur? La blancheur, c'est ce qui est blanc. C'est dans la définition. Qu'est-ce que c'est blanc? Ah, le blanc, c'est ce qui est, dépend de la blancheur. Alors, vous renvoyez mutuellement de l'un à l'autre, mais vous ne définissez pas. Alors, vous pouvez dire, l'homme, c'est l'intelligence liée à la main. C'est encore ce qui serait la meilleure définition d'anthropologie. C'est l'intelligence et la main. C'est comme ça qu'Aristote définit l'homme. C'est l'intelligence liée à la main. Vous pourriez dire l'intelligence liée au pied, si vous aimez mieux. Tu vois? Mais c'est plus la main, parce que la main est plus intelligente que le pied, normalement. Normalement. C'est vrai. On donne la main à quelqu'un. C'est quelque chose. Je ne donne pas le pied. Tu vois? Ça veut dire quelque chose de donner la main. Ça exprime que votre intelligence est en communion avec quelqu'un d'autre. Et que vous voulez le rencontrer, n'est-ce pas? Alors, vous, la main, c'est lié à l'intelligence comme l'instrument conjoint à ce que représente mon intelligence qui désire réaliser quelque chose. De sorte que la définition philosophique de l'homme, c'est l'intelligence liée à la main. La définition logique de l'homme, animal raisonnable. Et quand il s'agit de la vie, vous ne pouvez pas définir, vous êtes obligé de dire le vivant, enfin, ce n'est pas la vie que vous définiriez, le vivant, c'est une réalité existante qui a son autonomie et son organisation propre et qui est capable de faire que certaines réalités qui sont extrinsèques à lui deviennent intrinsèques à lui, parce qu'il est capable d'assimiler. Oui, la vieille définition du vivant, celui qui se meut. Mais voyez, quand je dis définir le vivant, celui qui se meut, c'est pas une définition. Je montre son opération. Le vivant, c'est celui qui se repose. Le vivant, c'est celui qui dort. Le vivant, c'est celui qui mange. Le vivant, c'est celui qui est capable d'assimiler. Le vivant, c'est celui qui respire. Le vivant, c'est celui qui connaît. C'est par ses opérations. Je ne définis pas du tout ce que c'est que la vie. Je précise par toute une série d'opérations ce qu'est le vivant. Et quand je suis en face de l'homme, je dis l'homme, c'est le vivant qui fait la synthèse de tous les autres degrés de vie que je tourne autour de moi. Il est comme une plante, il est comme un animal, et il est comme un esprit. Et c'est pour ça que les philosophes néoplatoniciens définissaient l'homme l'horizon entre le monde physique et le monde des esprits. Une très belle définition. C'est l'homme et l'horizon entre le monde physique et le monde spirituel. Et l'homme, c'est celui qui fait cette synthèse très particulière entre l'invisible et le visible. C'est encore une manière dont on peut définir l'homme. C'est le visible et l'invisible. Vous êtes à la fois visible et vous êtes en même temps invisible. Ce que vous pensez maintenant, c'est l'invisible pour moi. Ce que vous êtes à travers votre sensibilité, c'est par où vous vous manifestez. Alors vous êtes le visible. L'homme est celui qui a capacité d'intériorité, d'extériorité. C'est encore une manière de définir l'homme. Et ce n'est jamais une définition. La définition logique, c'est par genre et différence spécifique. Or, par genre et différence spécifique, la seule véritable définition, homme, animal, femme. Alors, il y a d'autres définitions qui sont des définitions d'ordre descriptif. C'est les définitions, justement, qu'on définit par le point de vue des diverses opérations. C'est une définition descriptive, ce n'est pas une définition rigoureuse, c'est une approche. Quand vous dites que le vivant, c'est celui qui est capable de dormir, c'est une approche. Le vivant, c'est celui qui est capable de connaître, de saisir, qui est capable de connaissance, c'est une approche. Alors vous vous approchez du vivant en lui en donnant toute une série d'opérations.
L'autre question, c'était l'intentionnalité.
L'intentionnalité, oui, ça, c'est une question très vaste et très difficile et importante. Parce que ce matin, nous avons vu, si vous vous souvenez bien, nous avons vu que la vie végétative impliquait l'assimilation biologique. L'assimilation biologique, c'est la respiration. Je m'assimile l'atmosphère et l'oxygène. C'est de fait le point de vue de l'alimentation. Je me nourris. C'est une assimilation biologique. L'assimilation biologique, c'est quoi? C'est qu'une réalité qui est extérieure à moi, je l'appelle l'aliment. Extérieure au vivant. Fait que grâce à l'assimilation, l'aliment est introduit dans le vivant. Je mange, je respire. Phénomène très simple auquel vous ne réfléchissez pas habituellement. Il vaut mieux pas trop y réfléchir, du reste. Surtout quand vous mangez, parce que ça pourrait être beaucoup plus difficile après à digérer. Alors, il vaut mieux pas. Mais je peux philosophiquement essayer de réfléchir sur ce que c'est que cette assimilation biologique qui fait que l'aliment, qui est une réalité extérieure au vivant, qui fait partie du milieu du vivant, va être introduite dans l'immanence du vivant. C'est propre du vivant, ça, c'est extraordinaire. Ça. C'est l'opération, alors c'est l'opération la plus caractéristique du vivant. Il est capable d'assimiler un aliment. Tout vivant est capable d'assimiler un aliment. Tous les vivants. Ils assimilent différemment selon des conditions très très différentes, c'est bien évident, mais au fond, ils assimilent. Ils assimilent quelque chose qui est extérieur à eux. Et c'est de cette manière-là que le vivant peut survivre. Que le vivant qui lutte, puisque la vie se réalise toujours dans la lutte, que le vivant qui lutte peut survivre, peut croître. Et qu'il est capable d'être source d'un autre vivant. Il peut être source de la génération. Donc, voyez comment il y a assimilation biologique. Cette assimilation biologique est au niveau donc d'une réalité physique, sensible, qui est extérieure au vivant lui-même, réalité sensible et physique, et qui fait que cette réalité devient lui. Tandis que lorsqu'il s'agit de la connaissance, donc lorsque je suis en face de la vie sensible, j'ai une assimilation que j'appelle intentionnelle. Alors je vous avais donné exprès un petit exemple pour que vous compreniez bien. Le petit déjeuner du matin, assimilation biologique. Et lorsque vous êtes à la porte du boulanger et que vous n'avez pas encore mangé, parce que c'est à ce moment-là que l'assimilation intentionnelle se fait le mieux, vous sentez, vous humez l'odeur de la boulangerie, des petits pains frais. À ce moment-là, vous êtes en face d'une connaissance. Vous sentez. Une connaissance. Connaissance. Sentir, c'est une connaissance. Vous sentez, et en sentant, vous assimilez une odeur. Cette odeur ne vous change pas, normalement. Si l'odeur n'est pas trop forte, elle pourrait détériorer l'organe physique. Exactement comme pour la vue. Quand vous regardez quelque chose de trop lumineux, ça peut détériorer votre organe. Mais normalement, la connaissance sensible ne détériore pas l'organe biologique. Et la connaissance réalise au-delà de l'organe, et c'est ce que nous appelons connaissance intentionnelle. Alors, la connaissance intentionnelle, qu'est-ce que ça veut dire, ce fait de la connaissance intentionnelle? Cette assimilation intentionnelle. Qu'est-ce que nous voulons dire quand nous voulons dire assimilation intentionnelle? Nous voulons dire qu'il ne s'agit pas d'une assimilation biologique. L'assimilation biologique transforme l'aliment. Tandis qu'au contraire, dans l'assimilation intentionnelle, la réalité connue, c'est-à-dire les sensibles propres, telle odeur, telle ou telle couleur, les sensibles propres ne sont pas modifiés à l'extérieur, mais ils déterminent ma connaissance sensible. Le terme propre, ce sera dire, il spécifie ma connaissance. C'est un terme propre au point de vue philosophique, la spécification. On dira que l'objet, la réalité sensible qui est un objet, ce qui détermine l'objet, c'est ce qui détermine ma connaissance. L'objet, c'est ce qui détermine ma connaissance, c'est ce qui spécifie ma connaissance. Je pars de la connaissance, il ne faut pas l'oublier, je ne pars pas d'objet. Hein. Je pars de la connaissance et j'analyse la connaissance en disant la connaissance provient du connaissant et la connaissance est déterminée par une réalité. Et c'est la détermination de la connaissance qu'on appelle l'objet. C'est une question extrêmement importante et difficile à saisir, c'est de voir que dans toute connaissance, il y a l'aspect du sujet et l'aspect de l'objet. L'objet détermine et le sujet, c'est celui qui exerce la connaissance. C'est le vivant. C'est le vivant qui connaît. Et le vivant connaît telle ou telle réalité. Et en connaissant telle ou telle réalité, le vivant est déterminé dans sa connaissance. Et cette détermination du vivant dans sa connaissance, c'est ce qu'on appellera l'objet. Ça, c'est très important de le comprendre, parce que, vous voyez, c'est dans la fameuse, parce que ça, c'est une grosse question qui existe depuis toujours et dans tous les systèmes philosophiques, c'est de savoir quelle est l'objectivité de la connaissance. C'est un très gros problème du point de vue proprement critique. Quelle est l'objectivité de la connaissance? Or, la plupart du temps, quand on prend cette question-là, on prend l'objet en soi, ce qui n'existe pas. Et c'est à partir de là qu'on ne comprend rien du tout. Il faut comprendre qu'on analyse une connaissance. Et dans toutes nos connaissances, on voit qu'il y a une détermination, un contenu objectif et un aspect subjectif. Vous me voyez actuellement? Bien sûr, vous me voyez, dis-moi, j'espère. Vous me voyez, non? Je suis en face de vous. Donc, pour vous, je suis un objet. Pour votre vision, je suis un objet. Parce que votre vision est déterminée par ça. Je prends un petit sujet, un petit encore pour vous donner encore une petite expérience. Parce que ce sont ces expériences-là qui nous font mieux comprendre. Je me souviens, avec mes discussions, nous reviendrons à l'intentionnalité. Tout ça se tient, parce que l'objet, vous voyez, est lié à l'intentionnalité. Avec mes bons psychanalystes, avec lesquels j'ai discuté pendant 15 ans. Alors, ils étaient venus une fois en Suisse, parce que je ne pouvais pas venir à Paris. Alors, ils étaient venus en Suisse, on avait trouvé un lieu, parce que quand il s'agit de faire de la psychanalyse et discuter au moins du psychanalytique, il faut autant que possible un lieu un peu reposant. Alors, ceux qui connaissent un peu la Suisse savent qu'il y a le Mont Pèlerin, mais qui est un très beau lieu, juste sur le lac, Léman, pour ne pas dire le lac, n'est-ce pas? Juste au-dessus du lac de Lausanne, ou du lac Léman, n'est-ce pas? Alors, juste au-dessus. C'était admirable, on avait un lieu très très beau. On discutait sur l'objectivité de la connaissance. Et évidemment, en bons psychanalystes qu'ils étaient, ils étaient tous à dire « On est tellement conditionné qu'il n'y a pas d'objectivité. » On est tellement conditionné chacun d'entre nous par le conditionnement qu'on a eu, donc il n'y a pas d'objectivité de connaissance, non, absolument. Moi, j'étais le seul à essayer de défendre, il y a quand même dans la connaissance ce qu'on appelle. Et puis j'ai essayé de leur faire comprendre que le problème était posé d'une façon très mâle, parce qu'ils le posaient en termes objectifs et subjectifs. C'est pas ce qu'on fait habituellement. Ma connaissance est-elle objective ou subjective? Mais ne posez pas le problème comme ça. Partez de la connaissance. J'ai essayé de faire comprendre, il ne comprenait rien du tout. Heureusement, la providence vient toujours au service de ceux qui cherchent la vérité. Tout d'un coup, un merveilleuse petite bête qui vient se poser tout près. Tout le monde regarde. Sais-tu, pour qu'elle s'approche le plus possible. Il y a eu un grand silence. C'est comme l'enfant, quand l'enfant parlait, tout le monde se tait. Enfin, c'est là, c'était pas l'enfant, mais c'était merveilleux, petit écureuil. C'est là, tout proche, qui dansait. Bon, puis, au bout d'un certain temps, il s'en va. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez vu ? Mais un écureuil. Ah, tiens, et moi aussi. Ah, c'est curieux. Vous aviez dit qu'on était tous conditionnés. Ben, c'est curieux. Moi, j'ai vu un écureuil. On n'était pas d'accord, et puis maintenant, on est tous d'accord d'avoir vu un écureuil. Vous voyez l'objectivité de la connaissance. Ah, mais c'est pas ça. C'est ça, l'objectivité de la connaissance. C'est qu'on a vu tous un écureuil, et qu'on est là d'accord. Oui, mais ça, c'est pas de la philosophie. C'est, vous comprenez, c'est ça, la philosophie. On commence par l'écureuil. On commence par cette expérience-là, et puis après on essaiera de voir que la connaissance est un peu plus loin. Mais c'est d'abord ça. Il faut d'abord accepter que je suis capable de voir un écureuil. Comme vous êtes capable de me voir, je suis capable de vous voir. Et quand vous me voyez, vous dites, ah, je crois que c'est un rêve. C'est un rêve. Non, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est une personne qui est vraie ou pas ? C'est un rêve. Non, normalement. La bonne femme qui va acheter un chou, elle demande un chou, et elle ne se demande pas si ce chou est, il est une espèce d'imagination de chou, n'est-ce pas ? Une idéologie chou, bien sûr, c'est un chou. Bon, dans la connaissance, et c'est très important ce que je dis là, parce que c'est là le grand péril. Brunswick, j'ai jamais assisté au cours de Brunswick, j'ai connu quelqu'un qui les avait suivis. Brunswick commençait en Sorbonne son cours de philosophie, tout le temps de la même manière. Messieurs et mesdames, mettez à la porte le bon sens. Nous allons faire de la philosophie. On voit très bien ce que ça veut dire. Mettez à la porte vos expériences. Nous allons faire de la philosophie. Moi, je dis l'inverse. Messieurs et mesdames, nous faisons de la philosophie. Réfléchissons à nos expériences. Si la philosophie est coupée, voyez, de l'expérience de tous les jours, à quoi ça sert ? Ça sert uniquement alors à réfléchir sur des idées et qui ne sont jamais l'expérience de tous les jours. L'homme, il vit, tout simplement. Et il vit à des niveaux différents et le philosophe va réfléchir sur ces niveaux différents. Et c'est ça qui est important, c'est d'essayer de comprendre que de fait, la philosophie s'enracine dans une connaissance objective quand je vois l'écureuil. J'analyse une connaissance. Alors je pourrais très bien, c'est bien évident que ce petit écureuil faisait à chacun d'entre nous un effet différent. Moi j'étais très heureux parce que je me l'ai dit, ça va être merveilleux. Au milieu de cette discussion de subjectivité, de l'objectivité, c'est merveilleux que l'écureuil tombe là juste en face. Parce que ça avait attiré l'attention de tout le monde. Les autres avaient pas pensé à ça. Parce que pour eux ça n'a aucune espèce d'importance. C'était tout à fait en dehors du sujet. Alors que pour moi, ce n'était pas du tout en dehors du sujet, c'était au contraire directement le sujet. Il faut tout le temps revenir à nos expériences. C'est la seule réalité que nous touchons. Nous revenons tout le temps à nos expériences. Alors évidemment, nous avons des émotions différentes vis-à-vis de nos expériences, mais nous revenons toujours à nos expériences pour saisir comment, dans l'expérience, il y a une part objective et il y a une part subjective. C'est bien évident. On ne peut pas avoir l'expérience dans une pure objectivité. C'est impossible. Toutes mes expériences impliquent une part subjective. Une part affective, une part passionnelle, une part imaginative. Et puis, il y a l'objectivité. Il y a quelque chose que je sais. Je dis, tiens, il y a là. Il y a une table. Il y a une réalité. Il y a un chien. Il y a une réalité objective que je saisis au milieu de la subjectivité. Alors toute la question, ce sera ici de critiquer progressivement ma subjectivité pour maintenir cette objectivité. Vous voyez ? Mais l'objectivité se prend à partir de la connaissance. Ça, c'est très très important de comprendre. Je ne peux pas parler d'objet en soi. Ça n'existe pas. L'objet en soi n'existe pas. L'objet se prend à partir de la connaissance comme le contenu de la connaissance, comme la détermination de la connaissance, comme ce qui spécifie. C'est ce qui spécifie ma connaissance qui est l'objet, ce qui détermine. Oui, ce qui donne la signification à ma connaissance. Alors, je reviens sur la connaissance. Je dis donc que dans la connaissance sensible, il y a une assimilation attentionnelle. Vous voyez que la détermination de ma connaissance, la spécification de ma connaissance, elle est au niveau intentionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Au niveau intentionnel, ma connaissance, c'est pas l'aspect, c'est, vous voyez, l'aspect de la modification de l'organe biologique qui est la connaissance. Mon œil va être brûlé parce que je suis trop proche du feu, n'est-ce pas ? Oui, c'est pas ça ma connaissance. La brûlure que j'ai n'est pas ma connaissance. La connaissance est autre chose que le domaine biologique. Que le domaine biologique soit nécessaire pour la connaissance comme condition de la connaissance, c'est bien évident. Mais la connaissance est autre chose. C'est la conscience que j'ai de connaître. C'est très curieux, ça. Vous voyez, quand vous prenez le café le matin, vous avez une connaissance quand même de prendre du jus chaud, on peut dire autre chose, n'est-ce pas ? Vous prenez du jus chaud, il est plus ou moins bon, mais il est chaud. S'il était froid, je ne sais pas si vous le prendriez, mais comme il est chaud, vous le prenez. Parce que c'est vrai, de la lavasse froide, c'est effrayant, tandis que quand elle est chaude, elle est bonne. C'est vrai, ça, on est tous bien. On sait bien, le jus chaud, on sait ce que c'est. C'est une connaissance, il est chaud. Vous avez cette connaissance-là, vous pouvez le sentir. Ça sent le café, ça sent la chicorée. Qu'est-ce que ça sent exactement ? Vous savez, les psychologues disent cette chose très très belle, il ne faut jamais l'oublier, non ? Les psychologues, ça c'est les psychologues, c'est le premier livre de psychologie de Dumas. C'est ce livre de psychologie de Dumas qui a le point de départ de la connaissance de psychologie. Alors Dumas fait cette observation, c'est pour l'objectivité de la connaissance que je dis ça. Dumas fait cette observation. Vous n'avez qu'à mettre un bandeau sur les yeux. Donc, vous ne voyez plus. Bouchez-vous le nez. On vous sert le matin du jus chaud. Vous ne pouvez pas discerner si c'est du café ou du thé. C'est une des expériences de la psychologie. C'est très intéressant, du reste. Très intéressant, parce que vous voyez, là, on voit bien l'objectivité de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Ça veut dire que tout simplement, vous discernez le café et le thé par le point de vue d'un concours de l'odorat, du goût et de la vue. Et il faut les trois pour discerner. Quand vous en supprimez deux, vous pouvez discerner. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas objectif. Mais non, ça veut dire tout simplement que pour discerner certaines choses, il faut trois données. Autrement, je serais incapable de discerner. Faites la même expérience quand il s'agit d'une feuille. Quand vous voyez une feuille tomber, si vous êtes un tout petit peu, comme connaissez un tout petit peu les différentes espèces des arbres, bon, il ne faut pas simplement la couleur, il faut la figure, il faut quelquefois même le toucher. Si vous n'aviez que la couleur, vous ne pourriez pas discerner est-ce que c'est d'un chêne, est-ce que c'est d'un être ou est-ce que c'est d'autre chose. Vous ne pourriez pas discerner. Il faut les trois. Il faut le point de vue de la couleur, le point de vue de la figure et le point de vue du toucher. Et c'est pas du tout, ça ne veut pas dire que c'est pas objectif. Ça veut dire que de fait, l'objectivité, elle m'est donnée par un concours de détermination. Et c'est un concours de détermination qui permet d'avoir une certaine objectivité, d'avoir un contenu de connaissance. C'est très très important de saisir ça. Bon, alors, je vois ici donc que quand je dis assimilation intentionnelle, le point de vue de la spécification et le contenu de ma connaissance Je dis qu'il est d'ordre intentionnel. En parlant d'assimilation intentionnelle. Ma connaissance est une opération intentionnelle. Ma volonté est une opération intentionnelle. Mes passions, c'est encore de l'intentionnel. Alors vous voyez, comme c'est riche l'intentionnalité. Alors c'est pour ça que c'est très important d'essayer de comprendre ce que c'est que l'intentionnalité. Vous savez que l'intentionnalité avait été saisie en premier lieu chez le vieux philosophe Aristote. L'intentionnalité a été très développée chez les théologiens du Moyen Âge. Elle existe encore dans la philosophie, évidemment, de Descartes, mais très peu. Et alors, elle a été remise en lumière avec Brentano. Brentano a remis très très fort en lumière l'intentionnalité, et dans la phénoménologie, on est en plein temps. Alors aujourd'hui, on parle tout le temps de l'intentionnalité. Alors c'est un mot qui est de la philosophie très ancienne et qui est revenu dans la philosophie moderne. C'est pour ça que c'est intéressant. Il y a de ces clés comme ça. Comme un de mes amis qui justement ça l'intéressait tellement cela qu'il a fait toute l'histoire de l'intentionnalité. Alors, en essayant de comprendre à travers tous les philosophes comment apparaissait ce mot intentionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va essayer, je fais un petit nota bene, hein, pour essayer de préciser qu'est-ce que c'est que ce mot intentionnel et pourquoi le philosophe invente le mot intentionnel. Ça, c'est ça qui est intéressant. Quand le philosophe est obligé d'inventer un mot, parce que normalement, en inventant un mot, il nous met le doigt sur une réalité qu'il ne peut pas exprimer autrement. Il est obligé d'exprimer ça. Qu'est-ce que c'est que l'intentionnel? Vous ne le voyez pas, l'intentionnel. C'est de l'invisible, l'intentionnel. Mais c'est une réalité invisible. Enfin, je n'ai jamais vu l'intentionnel. J'ai vu la réalité physique. Je vois le rouge et le sensible propre rouge ou bleu, ça je le vois. Mais l'intentionnalité, la manière dont vous saisissez le rouge, ah, je ne vois pas ça. Absolument pas. Je ne vois pas. C'est pour ça que c'est très difficile quelquefois. On voit bien quand quelqu'un voit ou ne voit pas à cause des yeux qui bougent. Et quand on a un regard trop fixe, on dit tiens, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas? Mais autrement, on ne le voit pas. C'est l'intentionnalité dans votre œil quand vous le voyez. Pas du tout. Je vois votre. C'est vrai, c'est pas comme du tout. Alors on pourrait évidemment voir si l'image est dans la rétine, vous voyez? Alors là, mais c'est pas l'intentionnalité l'image dans la rétine. L'intentionnalité, c'est la connaissance elle-même. Ce qu'on peut saisir, c'est le point de vue, si vous voulez, de l'effet. Mais la connaissance elle-même, j'en ai conscience. J'ai conscience de voir. J'ai conscience de voir. Et je peux en parler parce que vous aussi, vous avez conscience de voir. Ah oui. Nous avons conscience de regarder le même petit écureuil. Nous regardons même, ou nous l'imaginons, n'est-ce pas? Eh bien, nous l'imaginons, mais c'est toujours le petit écureuil. Donc, nous avons conscience de la sensation, nous avons conscience de nos imaginations et de nos rêves, nous avons conscience de notre pensée. L'intentionnalité a ce privilège de pouvoir m'offrir la possibilité de la conscience. C'est extraordinaire. Tandis que vous n'avez pas conscience de digérer. Oui, sauf quand vous avez très mal. Hein. Mais vous n'avez pas conscience de digérer. L'assimilation biologique, vous n'avez pas conscience. Vous avez conscience qu'il y a des moments où ça ne va plus. Mais autrement, vous n'avez pas conscience de la digestion. Tandis que vous avez conscience de l'assimilation intentionnelle. Ah, ça, c'est extraordinaire de voir ça. Là, ça nous aide à comprendre ce que c'est que l'intentionnalité. Parce que qu'est-ce que c'est que la conscience, hein? Toucher à un problème qui est très, très foncier pour la vie. Pour la vie de connaissance, pour la vie affective. Alors, le mot intention, je vais essayer de prendre au point de départ. Le mot intention, ça vient du latin intendere, tendre vers. Le mot intention a été pris d'abord au niveau moral. J'ai l'intention de faire quelque chose. Vous voyez ? Prends là tout simplement. J'ai l'intention de faire quelque chose. C'est le mot intention. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites j'ai l'intention de faire quelque chose ? J'ai décidé de faire ceci. J'ai décidé d'assister au cours. J'ai vu maintenant que vous y assistez, l'intention se trouve réalisée. Mais vous avez peut-être réfléchi une heure avant en disant est-ce que je vais y aller, est-ce que je ne veux pas y aller, est-ce que ça c'est possible, c'est pas possible, j'ai une autre occupation à ce moment-là, c'est pas commode, on aurait pu me mettre à une autre heure, ça aurait été mieux, et ainsi de suite. J'ai l'intention de faire quelque chose. Vrai, l'intention, c'est quelque chose qui devance la réalité. J'ai la possibilité de devancer. Quand je réfléchis sur mes intentions, je devance. Je devance ce qui va se faire. Mais je le devance de manière telle que je suis tout entier tourné vers cette réalité. Je suis tout entier. Quand j'ai l'intention de faire quelque chose, je suis tout entier tourné vers cette réalité. Et en même temps, je la devance. Donc, je la porte en moi et elle n'est pas encore réalisée. C'est ça l'intention. C'est de porter en soi une décision volontaire. Je porte en moi cette décision volontaire et cette décision volontaire va animer ma vie, va déterminer mon activité. Et quand je serai devant la réalité, l'intention disparaîtra parce que je serai devant la réalité. Vous avez beaucoup d'intentions de vie, quoi. Quand on prend des décisions, c'est une intention de vie. Bon, alors vous avez donc ce domaine particulier de l'intention morale. L'intention morale me fait comprendre comment le point de vue de la volonté, donc la vie de l'esprit, est capable de devancer la réalité. L'intentionnalité, c'est donc devancer la réalité. C'est en premier lieu ça. Ce n'est pas la réalité telle qu'elle est. Si je la devance, parce qu'elle n'est pas là. Si elle était là, je ne la devancerais pas. Je serais simplement en face de la réalité. Je serais en présence. Mais parce que je ne suis pas en présence, que cette réalité n'est pas encore là, je dois la devancer. Je dois donc la porter en moi et m'orienter vers elle. Donc, hypothèse de recherche, hein, ce que nous cherchons ensemble. Hypothèse de recherche, qu'est-ce que c'est que l'intention? C'est de voir que le vivant peut devancer la réalité. Le vivant peut devancer la réalité. Le vivant peut porter en lui, avant que la réalité soit, cette réalité sous un mode particulier, sous un mode volontaire, sous un mode de pensée, sous un mode passionnel, sous un mode sensible. C'est ça l'intention. C'est pour exprimer la différence qui existe entre le vivant et l'être. Et entre le vivant et l'être, il y a quelque chose de particulier. Le vivant, c'est une réalité qui existe. Le vivant existe. Mais c'est une réalité qui existe d'une perfection telle qu'il peut devancer la réalité. Oui, on parlait de la durée. La durée, c'est quoi ? La durée. J'ai conscience de durée. C'est une intentionnalité, pourtant. Alors, c'est pas la réalité, la durée. C'est autre chose. La réalité, c'est je suis telle ou telle réalité. Mais je peux avoir cette immanence. Vous voyez, le vivant a une immanence dans sa vie. Et grâce à cette immanence, il peut devancer le réel. C'est grâce à ce côté d'immanence que possèdent tous les vivants, à tous les degrés, qu'il peut devancer le réel. On va préciser encore. Hein. Deuxième moment. Je prends tout de suite l'autre moment. Ça, j'ai pris le premier moment. Il faut réfléchir là-dessus en premier lieu. Deuxième moment. Je réfléchis sur, au niveau de la vie biologique. Je prends le gland. Je prends la semence. La semence contient virtuellement ce que sera le vivant. Dans le gland ou dans le blé, prenons le grain de blé, c'est encore mieux. Dans le grain de blé est contenu virtuellement ce que sera la réalité quand elle sera parfaitement réalisée. Alors, la semence contient intentionnellement la réalité quand elle sera parfaitement réalisée. Alors là, on dira virtuellement. C'est très curieux, ces choses-là. C'est très curieux. La semence contient. Je comprends parfaitement le grain de blé comme moi je regarde la tige qui porte des autres grains de blé. Alors je comprends toute la richesse de ce grain de blé. Autrement, je ne pourrais pas le voir. Parce que tout est à l'état virtuel. Et tout est à l'état intentionnel. Vous voyez, quand on parle du chiffre de l'homme, c'est ça que ça veut dire. Alors on prend un autre langage, et c'est l'intentionnalité. Dès le premier moment de la conception, tout le chiffre de l'homme est donné. C'est-à-dire, dans cette semence, tout est donné. Intentionnellement, virtuellement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vivant devance la réalité. Vous voyez, ça n'explique pas. Hein, on touche là quelque chose d'extrêmement important. C'est qu'il y a dans le vivant une possibilité d'anticiper le réel. Extraordinaire, ça. Il anticipe le réel. Il porte en lui une capacité de devancer le réel. Il y a donc dans le vivant une intensité d'être qui lui permet justement de devancer. Il porte intentionnellement le réel qui va se réaliser progressivement. Ça mettra du temps. Dans le point de départ d'un être, prenez pour un être vivant, pour un homme, ou bien pour un éléphant. Enfin, pour un éléphant, ça dure encore plus longtemps. L'intentionnalité est plus profonde, mais chez l'éléphant, ça dure longtemps. Ça fait longtemps, la gestation de l'éléphant. Enfin, c'est extraordinaire. C'est 7 ans ou 9 ans. Mais c'est quelque chose comme ça. C'est une gestation. Alors, voyez l'éléphant. L'intentionnalité de l'éléphant, c'est une intentionnalité encore plus grande. Bah, le premier moment de la semence, jusqu'à la réalisation de la mort, Le premier moment de la semence fait que tout ce que le vivant deviendra est là présent. Intentionnellement. C'est extraordinaire. Quand on réfléchit un peu à ça, c'est un vrai sens. Et là, on sent que combien la vie est pensée. Le vivant serait incapable. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que le vivant si vous ne voyez pas que le vivant est pensé. Je sais très bien, Mono dit l'inverse. Pourquoi? Parce que Mono réduit la vie uniquement aux conditions de la vie. Alors évidemment, c'est pas pensé du tout, ça c'est la matière. Alors je ramène le vivant à la matière, mais ça n'explique rien du tout. On ne peut pas dire que c'est le hasard qui est premier. Épicure avait dit ça avant Mono. Épicure avait dit exactement la même chose.